Denis Tillinac, vous êtes écrivain, journaliste, éditeur. Entre le monde de l'écriture, du journalisme, de l'édition, comment est-ce que vous avez commencé dans tous ces domaines ?
Écrivain, c'est pas un métier, c'est une raison d'être, un bonheur. Je suis toujours perçu comme un écrivain. J'ai jamais ambitionné socialement autre chose que d'être un bon écrivain français ou francophone.
Que vous dites raison d'être, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que...
Vous vous levez le matin en écrivant ?
Oui, pratiquement, oui, oui. Avec la première tasse de café, oui, j'ai toujours écrit. C'est mon mode naturel d'expression, presque
de respiration.
Oui, oui, j'ai toujours été fasciné par les écrivains. Je les ai tous beaucoup lus. Quand j'étais amoureux, j'envoyais des poèmes ou des morceaux de journal intime aux égéries variables pour essayer de les séduire. Ça ne marchait pas forcément très bien. Mais enfin, quand j'ai atteint ce qui ressemblait de loin à l'âge adulte, je me suis dit... De toute façon, tu es un écrivain, mais pas forcément un écrivain qui va publier. Je me voyais plutôt comme un espèce d'Amiel qui tenait son journal et dont on aurait découvert, 50 ans après ma mort, que j'étais un bon écrivain, un francophone. Mais enfin, je me voyais comme ça.
Comment est-ce que vous êtes passé d'une raison d'être à quelque chose qui vous a permis de vivre ?
J'ai toujours pensé d'ailleurs que écrire, quand j'ai commencé à publier, pas si tôt que ça, j'avais passé 30 ans, j'ai jamais voulu compter là-dessus pour vivre. Et après, quand je suis devenu éditeur, je me suis rendu compte le nombre de types qui avaient du talent qui se sont flingués parce qu'ils ont voulu en faire un métier.
Donc, il faut que ça reste un
dans
plaisir.
La gratuité.
Dans la gratuité. Quand on vous entend, on sent que vous êtes un passionné.
Ce qui génère une boulimie un peu fâcheuse, parce que j'ai toujours eu envie de faire 36 trucs à la fois, et quand on fait ça, on le fait mal, c'est vrai. J'ai une espèce de boulimie de lecture, de découverte, d'aventure.
Et puis, vous êtes devenu éditeur de cette maison d'édition, La Table Ronde.
Alors, plus tard.
Alors, entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu ?
Entre-temps, il y a eu mon premier livre que j'ai publié, Spleen en Corrèze, puis deux ou trois livres. J'ai eu quelques prix littéraires qui m'ont fait un petit peu connaître dans les milieux littéraires. Et à partir de là, des journaux me sollicitaient pour des chroniques. Alors, je suis devenu chroniqueur dans les nouvelles littéraires. C'était Jean-François Kahn à l'époque, mais aussi j'étais éditorialiste de Madame Figaro.
Qu'est-ce que vous avez commencé à écrire ? Spleen en Corrèze, c'est quoi ?
C'est à peine arrangé un journal intime. Alors j'en ai fait le journal des quatre saisons. J'en ai fait le blues d'un provincial, vous voyez, qui regarde la vie provinciale défile comme ça, avec sa volupté et sa monotonie. Et j'ai raconté ça. Je suis plutôt écrivain du genre styliste. Ce que j'aime, c'est jouer avec les mots, puis essayer de trouver de la poésie. C'est un peu un éditeur à qui j'avais montré ça, qui m'a poussé à publier. Je ne pensais pas forcément publier. J'ai eu la chance de tomber sur des bons éditeurs. Robert Laffont, qui est tout de suite le minimum de notoriété, qui a fait que les écrivains que j'estimais bien m'ont considéré comme des leurs, et c'est tout ce que j'en attendais. Une fois que ça marche bien, on dit toujours que c'est grâce à son talent. Mais ce n'est pas très vrai. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup la chance, le hasard.
Et alors la chance et le hasard vous ont mené à l'édition ?
Oui, on m'a proposé un jour, en 90, de diriger La Table Ronde. Je crois qu'elle venait d'être achetée. Et le propriétaire cherchait quelqu'un qui avait une image d'écrivain plutôt de droite, au hussard, au sens où Blondin, Déon, Nimier étaient considérés, on me mettait dans cette famille. J'ai hésité, un de mes amis aventurier, alors lui de gauche, même d'extrême gauche, partait faire la révolution en Somalie. Et moi je trouvais ça assez romanesque. À un jour près, j'y partais. Et on me proposait ça, j'ai hésité, je suis allé voir Blondin, qui était déjà bien vieux et surtout bien fatigué, qui était l'auteur mascotte de La Table Ronde, dont j'admirais ce mélange de poésie, de mélancolie, d'humour tendre dans sa prose, et qui m'a dit « Viens, ouais, tu seras des nôtres, c'est sympa ». Alors je me suis dit « Allons ferrailler un peu dans la vie littéraire parisienne ». Je vivais à Tulle, en Corrèze, avec ma famille, et donc ce monde littéraire m'était totalement étranger.
Alors La Table Ronde, vous êtes encore éditeur ? Vous êtes
non,
encore...
j'ai arrêté il y a 2 ans. Non, j'ai fait ça 18 ans, j'ai été PDG des éditions de La Table Ronde pendant 18 ans. Je publiais des centaines même d'auteurs vivants, des milliers de livres. Je l'ai fait avec bonheur aussi. J'avais choisi un directeur littéraire, Olivier Frébourg, qui était lui-même un écrivain. On a essayé de vivre encore comme au Quartier Latin de jadis, comme je pouvais l'imaginer, du temps de la NRF. Je pense qu'on a vécu ce sursis, c'était la fin. Maintenant, je me demande si c'est possible.
Et vous avez publié un livre assez étonnant, Le Dieu de nos pères. Comment est-ce que ce livre vous est venu ?
Il n'y a pas de livre qui m'ait occasionné plus de courriers. J'avais l'impression quand même que nos sources vives, hein, qui sont oubliées. Il y a une espèce de... La littérature et la philosophie s'enfoncer dans le désarroi, le fameux relativisme. Enfin, on est au bout de la déconstruction. Et puis, je suis quand même finalement, moi, ce qui nous porte, c'est le christianisme, c'est le judéo-christianisme. Et puis quand même, pendant 16 siècles, ce qui est à peu près tout ce à quoi je suis attaché, tout ce qui a structuré ma sensibilité, c'est le catholicisme romain. Et puis pas que moi, tout le monde, qu'il soit croyant ou pas croyant, j'ai envie de dire ça pour que les gens reprennent à la fois conscience de leurs racines spirituelles, esthétiques, donc conscience de notre héritage et puis confiance. Je sais bien que l'Occident se déchristianise depuis Descartes, mais en même temps, il me semble qu'il n'en faudrait pas tant que ça pour que ça renaisse, pour que ça refleurisse. Un éditeur Bayard m'avait proposé un livre, j'ai dit, mais je ferai ça, une défense de ce qui me tient à cœur et puis de ce qui m'a porté tout le temps. Je suis le catholique de l'espèce la plus ordinaire.
Ce qui est très beau dans ce que vous venez de dire, vous avez employé deux mots, le mot de conscience et le mot de confiance.
Oui, conscience. Puis je voyais bien comme éditeur, en plus des quêtes spiritualistes un peu pagailleuses, il y avait cette mode du bouddhisme ou de toutes les spiritualités orientales, il y a beaucoup d'exotisme là-dedans. Tu te dis, mais pourquoi ils vont chercher ça de toute façon, mais il y a tellement de variétés, l'exotisme, voire l'orientalisme, ils trouveront ça dans les familles catholiques aussi. Donc conscience un peu de ce dont nous procédons, toute famille esthétique, littéraire confondue. Et puis confiance, parce que quand même, il y a une espèce de nihilisme triste en France. Confiance, oui, confiance, pour qu'on retrouve un peu un sourire un peu prétanier. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un nouveau Moyen-Âge, une nouvelle Renaissance, un nouvel Ascalgique? J'en sais rien, peut-être tout ça à la fois, mais ça va plus, quoi.
Confiance qui va avec un autre mot que vous allez utiliser et que vous avez déjà utilisé pour l'un de vos titres de livre. Vous avez écrit aussi un dictionnaire amoureux de la France.
Je pense que quoi qu'on dise, quels que soient les avatars de sa souveraineté politique, c'est pas très important, on s'en fout un peu, l'âme de la France subsiste assez. En tout cas, j'ai voulu dire comment je la sentais. C'est pas l'État, pas la nation, pas la République. La France, hein, c'est charnel. Il a été question de 10% de nos compatriotes qui sont éventuellement rebeux, blacks, musulmans. Il a été question de la burqa, il a été question des sans-papiers, il a été question de toutes sortes de choses importantes, c'est pas politique. Mais il n'a pas été question de l'identité de la France. Je l'ai un peu regretté. Enfin, ça, c'est la bêtise des politiques, infinie. Et là, j'en écris un autre. C'est dictionnaire amoureux du catholicisme. Alors, catholicisme dans tous ses états. Et c'est compliqué parce que je ne suis pas un historien de l'Église, je ne suis pas un théologien, je ne suis qu'un modeste écrivain. Donc, il faut faire quelque chose de sensible, de très personnel. Faut pas dire de bêtises parce que le sujet est pas forcément grave au sens tristouné du terme, mais enfin il est pas futile. Ce livre me prend beaucoup de, enfin me demande beaucoup et ça. Je fais partie des écrivains qui ont besoin pour exprimer une idée, fut-elle abstraite, de partir d'un lieu. Par exemple, je parle de Camp de Saint-Martin. Camp de Saint-Martin, c'est l'endroit où est mort Saint-Martin. Et puis on a ramené son corps à Tours, dont il était évêque. Et là, c'était au mois de novembre, les églantiers se sont mis à refleurir. C'est ça qu'on dit, il était de Saint-Martin. Je pars évidemment de Grégoire de Tours. Après ça, je vais parler peut-être du curé de Tours de Balzac, mais entre-temps de Marie de l'Incarnation, qui est la mère spirituelle du Québec, si je peux dire. Vous voyez, comme ça, des balades. Hein, il y aura Assise, il y aura l'agneau, il y aura l'amour, mais il y aura Assise. À Assise, bon, c'est Saint-François, c'est Sainte-Claire, puis en même temps c'est Giotto. Mais par exemple, il n'y aura pas Saint-Augustin, mais il y aura intériorité, et je pars des confessions pour montrer que toute la littérature d'introspection jusqu'aux mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, jusqu'aux bloc-notes de Mauriac, mémoire intérieure, ça vient des confessions de Saint-Augustin, vous voyez, ça sera... Mais il y aura aussi l'enfant de cœur que j'ai été. Bien sûr, je serai un peu captif du catholicisme qui m'a été inculqué petit garçon. Je suis dans ce livre, donc je vis pas mal avec des saints. Alors, il y a des saints que j'aime, notamment à Rome. Il y en a un qui a fini à Rome, mais qui est tout à fait français, qui est Saint-Benoît Labre, le saint des clodos, si vous voulez, ou des SDF. Puis j'aime bien Saint-Philippe Néri. Alors, à la fois parce que c'est un saint gay, et puis parce que, enfant, j'ai été chez les oratoriens, donc qui m'ont supporté. Donc, je vis dans la sainteté, et on est appelé à la sainteté, au fond. Alors, à l'aune de cet appel du Christ, j'y aurais été fort infidèle. Donc, c'est pour ça que quand je dis que je n'ai pas fait grand-chose de ma vie, c'est un peu vrai. Et je pense que j'ai jamais tout à fait perdu la foi. Et je pense sinon je serais devenu fou ou cynique. Ou... Enfin, ça aurait mal tourné parce que j'étais un adolescent abominable. Une nuit sur trois, ça finissait au commissariat. J'étais pas très bien dans mes pompes. Je me cherchais. Je savais pas si j'étais rimbaldien, anarchiste. Enfin, l'emmerdeur. Mais il y avait ça quand même. Hein. Il y a quelque chose qui procède d'une aspiration à l'altitude et, disons le mot, à la pureté. Il y avait une aspiration, quelque chose qui m'a aidé à me tenir à peu près debout. Et ça, je le dois entièrement au curé et à l'Église catholique, et donc dont je me sens un fidèle de base, basique, comme on dit.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
J'écris ce livre, c'est le plus important de ma vie, hein, c'est évident, avec beaucoup de gratitude au fond, parce que ça m'a comblé, l'écrivain que je suis, la sensibilité, l'esthétique, je suis un homme qui vit beaucoup avec les livres, beaucoup avec les paysages, beaucoup avec l'art, tout ce que j'ai de mieux, si j'ai pu en faire de temps en temps des bouquets au moins, en tout cas des bouquets de prose, c'est grâce à l'Église catholique, donc une gratitude sans aucune équivoque.